Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. C'est la révélation de la littérature russe contemporaine. Vera Bogdanova, trentenaire, est l'une des premières romancières à parler de sa génération et des années 90, où les enfants ont hérité d'un passé traumatisant tout en affrontant un présent violent. Après un premier roman qui a connu un immense succès dans son pays, l'autrice, installée aujourd'hui entre Moscou et Bakou, en Azerbaïdjan, a publié une nouvelle fiction qui, elle aussi, a trouvé écho auprès d'un large public qui s'est sans doute reconnu dans ces trois protagonistes que l'on suit dans ce roman de formation paru aux éditions Actes Sud dans une traduction du russe par Laurence Foulon sous le titre très évocateur « Saison toxique pour les fœtus ». Là, on suit Genia, Ilia et Dasha, de 1995 à 2013. C'est ce tableau d'une époque, d'une jeunesse, d'une Russie que je vous propose de découvrir maintenant avec Vera Bogdanova, de passage récemment en France. Rencontre. Bonjour Vera Bogdanova et bienvenue à RFI.
Bonjour.
Et je salue Polina Kiseleva qui sera votre voix française tout au long de cet entretien. Vera Bogdanova, votre roman, nous allons en parler dans quelques instants, mais je me demandais, vous, Vera Bogdanova, à quoi ont ressemblé votre enfance et votre adolescence ?
Oui,
merci beaucoup pour votre question. Mon enfance, finalement, c'était une enfance qui paraissait beaucoup à l'enfance de Genia et de Ilia. C'était une enfance assez classique, on peut dire, pour quelqu'un, pour un millénial, le représentant de cette génération qui est né en Russie et grandi en Russie dans les années 90 et au début des années 2000. Donc d'un côté, cette période du temps est caractérisée par un chaos qui régnait partout et nos parents se posaient souvent des questions existentielles, où est-ce qu'on peut trouver de l'argent, où est-ce qu'on peut trouver un emploi, etc. Les enfants, souvent, passaient leur temps avec leur grand-mère, beaucoup plus de temps avec leur grand-mère. Et moi, je ne fais pas exception à la règle. J'ai été élevée par ma grand-mère et sa sœur. Donc, une partie de mes souvenirs, de ce que je garde de mon enfance, des jours que je passais à la datcha en été, et pas seulement en été, l'amour de mes grand-mères qu'elles avaient pour moi, c'est quelque chose que j'ai incarné dans mon roman, bien évidemment. Et donc, quand j'étais petite, j'ai grandi à Moscou. Mon enfance, je l'ai passée à Moscou. Depuis mes 3 ans, j'ai commencé à apprendre l'anglais. Je fréquentais des cours dans une école de langue spécialisée. Et mes grands-mères ont tout fait. On met toutes leurs économies, tout l'argent qu'ils avaient. Alors que parfois, nous n'avions pas même assez d'argent pour s'acheter à manger, pour se nourrir proprement. Mais quand même, elles ont mis toutes les économies pour me financer ces cours d'anglais. Parce qu'à l'époque, on était persuadé, tout le monde était persuadé, qu'un avenir meilleur attendait les personnes qui apprendraient l'anglais. Et il y avait 3 façons d'atteindre le succès dans la vie, c'est de devenir juriste, ou bien économiste, ou bien traducteur. Et donc, pour moi, ils ont choisi cette voie de traducteur.
Ce qui est donc exactement le cas de Genia, puisqu'elle aussi, assez jeune, encore à 11 ans, elle dit qu'elle va être traductrice de la même façon que sa grand-mère, qui est aussi la grand-mère d'Ilia et de Dasha d'ailleurs, puisqu'ils sont cousins, s'occupe beaucoup de ses petits-enfants. Elle achète des livres en cachette. Ça vous est donc arrivé, ça aussi, Vera Bogdanova, de cacher des livres sous votre lit ?
Oui, donc tout à fait. C'est aussi mon histoire à moi. En plus, il y a un épisode dans le livre où j'écris comment la grand-mère de Genia prend Genia et avec Genia, elles vont ensemble une fois que la grand-mère a reçu sa pension de retraite. Elle le reçoit tous les mois. Donc une fois cette somme arrivée sur son compte, et elle prend Genia et avec Genia, et ils vont dans le centre de Moscou, dans une grande librairie et avec tous ces cet argent, ils achètent des livres. Ça, c'est tout à fait mon histoire. C'est ce qui m'est arrivé quand j'étais petite. Donc, chaque mois, on achetait à peu près 20 livres. Et je lisais ces livres, je les dévorais au bout d'une semaine. Et en plus, quand j'étais petite, depuis le plus jeune âge, j'ai commencé à lire beaucoup. Je lisais tout ce que je pouvais trouver, n'importe quel livre. Nous avions une grande bibliothèque à la maison, beaucoup de livres. Donc, c'était vraiment une culture de lecture qui existait dans notre famille.
Alors Vera Bogdanova, vous n'êtes pas devenue traductrice, mais bien écrivaine, puisqu'il s'agit de votre deuxième roman. Je me demandais pourquoi, avec celui-ci, vous avez voulu écrire sur cette époque en particulier. En quoi votre génération est-elle différente des générations d'avant ?
Donc oui, pour écrire ce roman, je me suis inspirée du livre, du roman Normal People de Sally Rooney. J'ai lu ce roman dans sa version originale quand il venait de paraître et je me suis posé la question quand je lisais ce roman. En quoi est-ce que les millénials russes, donc ceux qui ont entre, on va dire, 25 et 40 ans, en quoi est-ce qu'ils sont différents de la même génération en Europe et aux États-Unis ? Et alors, je me suis rendu compte à ce moment-là que, premièrement, il n'y avait pas de livre à ce sujet, et deuxièmement, qu'il y avait très très peu, vraiment une quantité minuscule de livres qui portaient sur les années 90, début des années 2000, en Russie. Donc oui, je me suis rendu compte à ce moment que c'est surtout ce chaos qui régnait dans les années 90 nous a beaucoup influencé ma génération. C'était des crises économiques, l'instabilité politique qui régnait à cette époque. Il y avait beaucoup de crimes, donc ça, c'était une ambiance assez particulière. Et c'est quelque chose, tous ces facteurs, ils ont formé ce sentiment d'instabilité, d'absence d'avenir chez ma génération. Le fait qu'on ne pouvait rien planifier dans la vie, on ne savait pas ce qui allait nous arriver au bout d'un mois ou au bout de 6 mois ou au bout d'un an. Peut-être un jour, quand on prend les transports pour aller au travail, on ne pourra jamais arriver sur son lieu de travail parce qu'on prend le métro, par exemple, et la rame va exploser. Ou peut-être on va se coucher la nuit et on ne va pas se réveiller le lendemain parce que c'est notre maison qui va exploser.
Alors, c'est vrai que c'est un roman à la fois d'apprentissage, de formation, où on voit l'éclosion de toute la sensualité de ces trois adolescents. Mais c'est quand même un roman qui soulève beaucoup la question des violences. Les violences considérées comme, et je mets des guillemets, normal. Par exemple, Genia est toujours rabaissée par ses parents, comme si la famille était déjà le premier cercle de l'humiliation, de rabais, de moteur de honte. C'est aussi ce que vous vouliez raconter, Vera Bogdanova ?
Absolument. Oui, tout à fait. C'est quelque chose que je voulais montrer. Je voulais montrer ce cycle de violence et du fait qu'il fallait se taire et qu'il ne fallait pas en parler. C'est quelque chose qui a existé et qui malheureusement existe toujours en Russie. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans la famille, on préfère ne pas en parler. On préfère se taire. C'est quelque chose qui existe. Et malheureusement, moi-même, j'ai été témoin de ça, de cette attitude, parce que mon père, il faisait parfois des choses atroces, mais personne n'appelait la police. Personne ne voulait se mettre en conflit avec lui, puisqu'il y avait comme cette conscience, comme cette idée qu'il ne fallait pas le faire, que ce n'était pas quelque chose d'acceptable, qu'il ne fallait pas en parler en dehors de la famille. Et donc pour de nombreuses personnes, la situation était la même. Si par exemple on entendait que le voisin est en train de frapper la voisine et on entend les bruits et les cris, on ne va pas appeler la police, puisque on se disait et on se dit toujours malheureusement que si on appelle la police, soit ça ne change rien, soit ça peut même faire empirer la situation.
Et plus, стоит острый вопрос.
Donc maintenant, un problème qui se pose, qui est très aigu dans notre société, ce sont les violences conjugales, les violences faites aux femmes, les violences contre les personnes âgées et contre les enfants. Une femme n'a personne à qui elle pourrait s'adresser si, par exemple, il y a son ex-mari ou son ex-copain qui la suit partout et qui la menace. Et il y a eu des cas où des femmes et même des femmes et des membres de leur famille se sont adressés à la police, mais elles n'ont reçu aucune aide parce que la police a considéré qu'il n'y a pas de fondement de crime, qu'il ne s'est rien passé en gros. Et parfois, quand les situations deviennent vraiment graves, c'est-à-dire quand l'homme violent tue la femme, ou au contraire, elle essaie de se défendre et tue son mari ou son conjoint, c'est à ce moment-là que la police intervient, mais il est déjà trop tard.
Alors tout ce que vous venez de dire, Vera Bogdanova, ça s'incarne vraiment dans votre roman. Il y a ces situations et ces personnages qui incarnent cette violence, donc on l'a dit, violence au sein de la famille, violence économique. Ça, c'est très important. Effectivement, comment boucler les fins de mois, les parents de Jenna qui vont sur les marchés pour survivre, la grand-mère qui a perdu tout son argent à cause d'un faux spéculateur. Tout est précaire. Et puis, vous venez de l'aborder, cette violence masculine envers les femmes qui est quotidienne et considérée comme naturelle. Les coups, les insultes, les exigences des hommes envers les femmes sont sans fin. On se demande pourquoi. Alors, bien sûr, il y a la déprime de cette ambiance, il y a l'alcool. Et puis la place des armes aussi dans la vie quotidienne. Est-ce que c'est ce qui explique ce climat de tension et de danger permanent?
Абсолютно точно. И то есть в 90-е мы это видели особенно ярко.
Oui, tout à fait. Donc dans les années 90, je pense c'était très 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 visible, c'était très parlant cette situation. Avec le temps, bien évidemment, l'intensité s'est baissée. Maintenant, il y a moins de violence, je pourrais dire, au moins cette violence visible, ouverte qui est sur la surface. Quoique, il y a 2 ans, avec le début de la guerre, la situation a commencé à de nouveau s'empirer. Donc, bien évidemment, ça a beaucoup d'influence sur moi, sur notre génération. Et d'un côté, nous essayons d'être conformes aux attentes. Nous cherchons du calme et nous cherchons du confort dans des situations où même c'est vraiment pas facile d'avoir ce confort et ce calme. Et nous sommes d'accord pour accepter des conditions qui peuvent être pas idéales ou même difficile, juste pour avoir ce confort et cette tranquillité. Nos parents nous ont dit qu'il faut bien se taire pour ne pas faire empirer la situation, donc on se tait. Et je pense que ça, c'est l'un des facteurs, l'une des choses qui différencie, qui fait la différence des Russes milléniaux et des milléniaux, donc les gens de la même génération, d'autres pays.
J'entends bien ce que vous dites, là, Vera Bogdanova. On vous a appris à vous taire, mais vous, vous écrivez néanmoins. Vous les écrivez, ces violences faites aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées, comment aussi les femmes d'avant cautionnent certaines agressions. Quand Jenia a 13 ans, par exemple, et qu'elle se fait agresser par des garçons qui lui touchent les seins, sa mère lui dit « Ah, mais c'est une bonne chose, ça veut dire que tu as attiré leur attention, que tu es jolie ». Ça, c'est quand même un problème. Mais vous écrivez aussi comment Jenia se fait vomir après avoir mangé pour sans doute répondre à des diktats de beauté. Tout ce que vous écrivez sur les violences en général, c'est parce que, d'une certaine façon, vous ne vous taisez pas, vous, Vera Bogdanova.
Oui,
on peut se dire que j'écris et je décris des choses qui sont assez évidentes, les choses qui sont évidentes et qui font la réalité de beaucoup de jeunes femmes en Russie. Mais il faut dire qu'avant l'apparition de la saison toxique pour les fœtus, ce n'était pas très commun, ce n'était pas très répandu de parler de ces problèmes, des problèmes de femmes, des problèmes de violence. violence. Et donc, ça n'existait pas dans la littérature. Ce n'étaient pas des œuvres qui étaient intéressantes pour le public et qui avaient beaucoup de succès. Et donc, moi, quand je l'ai écrit, quand j'ai parlé de ça, de nombreuses personnes ont commencé à joindre leur voix à ma voix. C'était plus facile, après la publication du livre, pour eux de commencer à parler, à dire des choses, de dire à haute voix que voilà, il ne faut pas me traiter comme ça, je ne veux pas subir les violences ce n'est pas bien, il faut respecter mes frontières et mes besoins. Et donc quand je l'ai dit, je l'ai fait, je pense que ça peut être considéré comme un petit pas vers l'éradication de ce problème.
Retour dans Littérature sans frontières sur RFI où je reçois aujourd'hui l'écrivaine russe Vera Bogdanova à l'occasion de la traduction en français par Laurence Foulon de son roman paru sous le titre « Saison toxique pour les fœtus » aux éditions Actes Sud. Une fiction, comme on l'a entendu en première partie, qui brise le tabou du silence dans la société russe en abordant frontalement la question des violences sexistes, sociales, économiques qui ont marqué et marquent encore tout le peuple. Sans oublier la violence du terrorisme qui a frappé le pays dans les années 90 avec des attentats dans la rue, les transports en commun, dans tous les lieux publics où chacun vivait la peur au ventre. Aujourd'hui, c'est la guerre en Ukraine. Comment vivez-vous cette nouvelle violence? Comment ça se passe au quotidien pour vous, Vera Bogdanova? Est-ce que la peur est revenue?
Я закончила писать сезон отравленных плодов в конце 2021 года. И в качестве послесловия я написала о том, что я очень надеюсь на то, что мой сын, мой ребенок, никогда
oui, не... j'ai fini la saison toxique pour les fœtus en fin, toute fin de l'année 2021. Et dans le postface de ce livre, j'ai écrit, j'ai dit que j'espère que mon fils ne va jamais connaître la même peur que je décris. Il n'aura jamais peur d'attentats terroristes, il ne verra jamais la guerre et qu'il ne devra pas grandir dans les mêmes conditions. Et une semaine avant la publication de mon livre, c'était le 24 février, donc la guerre a commencé. Et il s'est avéré que j'avais tort dans ce que j'ai dit à la fin du livre et que mon fils et d'autres enfants, ils vont peut-être vivre la même peur et la même situation que nous, nous avons vécu dans les années 90-2000. Et donc oui, cette situation, ces attentats, c'était d'un côté une situation qui nous a retraumatisé ma génération et la génération précédente et qui a traumatisé cette nouvelle génération et qui a vécu ce qui existait avant.
Vous vivez en partie en Azerbaïdjan. Est-ce que c'est pour vous éloigner de la Russie, Vera Bogdanova ?
Oui, tout d'abord, il faut dire que je me suis mariée. Et mon mari, il vient d'Azerbaïdjan, il est de Bakou. Donc oui, je suis venue vivre avec mon mari, on peut dire. En plus, je ne me sentais plus du tout confortable en Russie. Ça faisait longtemps que je me disais que j'aimerais peut-être déménager. Mais à partir de l'année 2022, je ne me sens pas tout à fait confortable en Russie, à Moscou. Mais bien sûr, quand je peux, quand j'ai la possibilité, je reviens en Russie. Parce que mon fils habite toujours en Russie. Et aussi, j'aime rencontrer mes lecteurs, qui, pour la plupart, ce sont des lecteurs russes qui m'aiment. Et moi, bien évidemment, j'essaye d'aller les voir et leur parler.
Donc, vous vous êtes installée en Azerbaïdjan, ce qui fait écho aussi à une scène dans le roman, puisqu'il y a un de vos personnages, une amie de Genia, qui, elle, va s'installer dans un autre pays. En l'occurrence, c'est l'Ukraine, où elle va suivre son mari. Est-ce que vous avez des amis là-bas, Vera Bogdanova ?
В Азербайджане ?
Non, en Ukraine.
Ukraine. К сожалению, ну как бы они бы находились.
Oui, donc j'avais des amis en Ukraine, mais malheureusement ils ont dû quitter le pays. Donc il y a ceux qui vivent maintenant en Europe, il y en a d'autres qui vivent en Israël ou aux États-Unis.
On n'a pas encore dit, mais Saison toxique pour les fœtus est aussi un roman d'amour, un amour transgressif entre deux cousins, et en même temps c'est un amour tel que rien, ni personne, ni le temps, ni même eux n'arrivent à y mettre fin. Qu'est-ce que vous vouliez transmettre par cette histoire hors norme, Vera Bogdanova ?
Это история любви, действительно, которую герои проносят через.
C'est un amour que nos personnages ils gardent en eux pendant toute leur vie, à partir de leur adolescence et jusqu'à leurs 30 ans qu'on voit à la fin du roman, quand enfin ils se retrouvent de nouveau, ils se voient de nouveau. Donc oui, c'est une histoire où d'un côté on voit deux amoureux qui n'ont aucun moyen, aucune possibilité de se mettre ensemble et d'être ensemble et d'être heureux. Mais de l'autre côté, c'est vrai que ce sont deux personnes qui trouvent en quelque sorte leur âme sœur, qui se comprennent comme personne ne les comprend. Donc voilà, d'un côté, c'est une histoire de premier amour, mais aussi d'un amour vrai, réel. Et c'est aussi, en même temps, l'histoire d'amour d'une grand-mère qu'elle a pour ses petits-enfants, qui prend soin d'eux, qui vraiment, c'est quelque chose qui nous est très familier, que beaucoup de personnes de ma génération connaissent. Parce que nous avons, bon, je ne peux pas parler pour tout le monde, je ne peux pas dire que ça concerne toute la génération, mais nous sommes très nombreux dans ma génération d'avoir passé nos meilleures années de l'enfance avec nos grands-mères. Et c'est avec nos grands-mères que nous avons eu les relations très proches et les relations très chaleureuses.
J'entends bien la nostalgie dans vos réponses, Vera Bogdanova, mais moi j'avais l'impression à la fin de ce livre que la question d'être heureux était enfin possible malgré tout, malgré le chaos, malgré la guerre, malgré les interdictions. Il y a quand même quelque chose qui dit on peut peut-être y arriver.
Absolument.
Oui, donc c'est justement précisément au moment où mes personnages, ils prennent leurs responsabilités, où ils prennent leur vie en main, où ils prennent la responsabilité de leur propre bonheur et ils commencent à chercher et essayer de comprendre ce qu'ils veulent vraiment dans la vie, quels sont leurs désirs. Et ils commencent à ne plus faire attention à ce que disent les autres, ce que dit la société. Et ils commencent à comprendre ce qu'ils veulent vraiment et quel amour ils cherchent et quels sont leurs vrais désirs. Et oui, c'est à ce moment où ça se passe.
Malheureusement, ce bonheur a été rattrapé par l'actualité. Et comme vous le disiez si bien, Vera Bogdanova, la génération suivante, celle de votre fils, malheureusement, reconnaît à nouveau la peur. Comment est-ce que vous voyez l'avenir pour votre pays ?
К сожалению, это настолько сложный вопрос, на него не могут ответить. Я боюсь, ни я, ни...
Oui, malheureusement, c'est une question qui est très difficile à répondre. C'est ni moi, ni des spécialistes, des professionnels comme des sociologues ou des politologues qui cherchent des réponses à ces questions en ce moment ne peuvent vous donner cette réponse. Oui, on peut espérer encore, je pense, le meilleur. On peut espérer qu'un jour, il n'y aura plus de violence. Et je pense qu'on peut placer beaucoup de confiance et d'espoir dans cette nouvelle génération. Donc les personnes qui ont la vingtaine en ce moment, ils sont, mais c'est une autre génération. Elles sont très différentes de nous. Quand je rencontre ces lecteurs, ils posent des questions qui sont très intéressantes. Par exemple, lors d'une présentation de mon livre que j'ai faite, j'ai parlé avec cette nouvelle génération et ils m'ont posé des questions, par exemple... Oui, donc tout ce que vous décrivez, c'est bien, on voit ce qui se passe, on comprend. Mais alors, vos personnages, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés voir un psychologue ? C'est tellement simple. Et pour moi, ce n'est pas du tout évident de leur expliquer que dans les années 90, il y avait peu de psychologues et il y avait encore moins d'argent pour se payer les services de ce spécialiste. Mais oui, je pense que c'est une source d'espoir que nous avons, que cette nouvelle génération qui est tout le temps connectée à l'Internet, qui a des amis partout dans le monde et qui ont eu la possibilité de voyager, de se faire une idée de ce qui est le monde et de construire leur propre vision de la vie, c'est là où réside l'espoir. Je pense que c'est quelque chose qui doit nous donner beaucoup d'optimisme.
Et dernière question, est-ce que vous pourriez, Vera Bogdanova, écrire sur ce qui se passe aujourd'hui ? Ces années qui sont importantes à la fois pour la Russie, pour l'Ukraine et aussi pour d'autres pays.
Pour mon opinion, писатель...
Oui, je pense que chaque écrivain, c'est une personne qui reflète un peu le quotidien, qui reflète la situation actuelle. Donc c'est quelqu'un qui décrit l'histoire, le courant de l'histoire, et qui se tient un peu... Voilà, un peu loin des événements et qui décrit ce qui se passe. Et je pense que moi, tout comme de jeunes générations d'écrivains, aussi ceux qui vont devenir des écrivains, vont pouvoir et vont absolument écrire sur les événements que nous voyons aujourd'hui. Il y aura beaucoup de livres à ce sujet, je suis sûre, écrits par des écrivains russes, par des écrivains ukrainiens. Et nous tous, la communauté des écrivains, nous allons pouvoir réfléchir sur ce sujet. Et pour moi, je peux dire que si je décide d'écrire quelque chose, de raconter une histoire, je le fais sans aucune autocensure, parce que là où commence l'autocensure, s'arrête l'art et s'arrête la créativité.
Et on va se quitter sur cette très belle conclusion. Merci beaucoup, Spasiba, Vera Bogdanova, d'être venue nous parler dans Littérature sans frontières de ce roman admirable, traduit du russe par Laurence Foulon et qui est apparu sous le titre « Saison toxique pour les fœtus ». Et merci beaucoup à Paulina Kiseleva qui a été votre voix française tout au long de cet entretien. Encore une fois, spasiba.
Spasibo vam.
Littérature sans frontières. Catherine Frujon-Toussaint. Apolline Verlon.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.